Salut, c'est Anne.
Hello, c'est Selma. Bienvenue dans le crossover des podcasts Care Constellaire et Mel & Melly, notre rendez-vous périodique à deux voix pour parler des pratiques d'accompagnement à travers un angle décolonial.
Ici, on utilise des mots comme eurocentrisme, décolonialité, chute du patriarcat, hétéronormativité à la poubelle, et on peut dire des choses comme brûlant capitalisme. Nous sommes toutes les deux professionnelles de l'accompagnement et nous proposons un espace de formation pour les pros du soin qui veulent décoloniser leur pratique, la pilule rouge.
C'est parti pour une demi-heure de communautarisme, d'islamo-gauchisme, de wokisme et tous les autres ismes qui font trembler le système. Bonjour Anne.
Bonjour Selma.
Comment ça va?
Écoute, ça va, et toi?
Bah, ça va super, merci, je suis trop contente de faire ce petit crossover avec toi.
Oui, yeah, c'est trop génial, c'est une bonne manière de commencer la rentrée.
Carrément.
Alors, on va juste faire un petit point pour commencer sur c'est quoi le concept, c'est quoi l'idée. Donc Selma et moi, on a chacune de notre côté des podcasts. Et on s'est dit que ça pouvait être vraiment chouette de vous proposer des épisodes communs régulièrement parce qu'on travaille ensemble depuis un petit moment là déjà, notamment dans la pilule rouge, qui est un espace de formation pour décoloniser les pratiques d'accompagnement. Et du coup, on a beaucoup de matière pour débriefer ce qui se passe à la fois sur les sujets qu'on peut aborder dans nos transmissions, mais aussi ce qui peut se passer dans nos suivis et aussi ce qui se passe dans les échanges qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux entre nous ou avec d'autres personnes. Et l'idée, c'est de proposer un temps régulièrement pour en parler avec vous et proposer de la matière à réflexion sur cette question de la décolonisation de nos pratiques.
Oui, donc on propose ce rendez-vous périodique à deux voix pour parler justement de la colonialité, de la décolonialité dans le monde du soin. Parfois, on sera toutes les deux. Parfois, on aura des invités avec nous pour discuter de certains sujets précis.
Et aujourd'hui, on avait envie de partir d'un cas pratique qui est en réalité un cas d'école en matière de posture eurocentrique.
Donc l'eurocentrisme, alors, il faut savoir que moi j'adore les définitions. Donc, je fais souvent intervenir pour définir mes mots. Donc l'eurocentrisme, ça désigne le fait de voir le monde d'un point de vue européen et de voir ce qui existe dans les pays eurocentriques comme étant la norme. Quand on parle des pays eurocentriques, ce n'est pas uniquement l'Europe. C'est l'Europe, mais aussi les pays où le processus de colonisation est allé presque jusqu'au bout. Ce qu'on appelle des colonies de peuplement, comme par exemple les États-Unis, le Canada, etc. Et en fait, aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on vit dans un paradigme eurocentrique qui découle justement du projet colonial européen. Ce qui est intéressant avec le paradigme eurocentrique, c'est qu'il est binaire. Et en fait, il se base sur un clivage civilisation-barbarie qui permet d'asseoir les rapports de domination. Et en fait, il transparaît partout, tout le temps. C'est-à-dire qu'on vit presque tous et toutes dans un paradigme eurocentrique. Et donc là, aujourd'hui, on va un petit peu en parler avec ce cas d'école.
Alors, vous allez beaucoup mieux comprendre avec le cas qu'on va vous présenter. Donc, le contexte, c'est le meurtre de Naël. Donc, j'imagine que vous vous en souvenez, mais si ce n'est pas le cas, c'est le mardi 27 juin 2023 à Nanterre. On a Naël, qui est un adolescent, au volant d'une voiture, qui est interpellé par des policiers et qui est tué par ces policiers peu portants. C'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit en France, qui a été relayé sur les réseaux sociaux et c'est parce qu'on a eu des images extrêmement claires qui ont permis de montrer ce qui s'était réellement passé. Et ça a choqué beaucoup de monde, à juste titre. Puis s'en est suivi toute la reprise médiatique qu'il y a pu avoir. Voilà, pour le contexte. En tout cas, ça a été hyper violent, aussi parce que c'est un énième cas de violence policière, que ça fait longtemps que les personnes racisées sont au courant qu'il y a des violences policières, que ça fait longtemps qu'il y a du militantisme autour de ça, que on dit que ça existe, qu'à chaque fois qu'il y a une affaire, quelque chose qui se passe, il y a des voix qui s'élèvent pour essayer de dire que c'est un problème, et qu'à chaque fois, on a un contre-discours qui vient étouffer ces voix. Et à ce moment-là, dans ce cas précis, ça n'a pas été... Ça n'a pas été valide, parce que pour une fois, on avait des preuves très, très claires. Et du coup, ça a mis un peu tout le monde en PLS, notamment les personnes racisées, et puis les professionnels du soin, parce que c'est un petit peu ce qu'on avait aussi dit lors de tout ce qui s'était suivi, les remous qui avaient suivi le meurtre de George Floyd. C'est que, c'est hyper violent de voir un corps qui ressemble au nôtre mourir, subir des violences d'un système, subir des violences de la part de personnes blanches, etc. Ça réactive quand même quelque chose à l'intérieur de nous. Et il y a eu énormément de demandes à ce moment-là, de personnes qui avaient besoin d'être accompagnées, en fait, sur ce sujet. Et parallèlement, beaucoup de professionnels du soin qui pouvaient être en mesure d'accompagner en PLS complet, parce que dans le même cas de figure, en fait. Et ça, c'est mon cas personnel à moi. C'était hyper difficile, cette période, parce que... c'est vraiment le moment où on se dit, s'il y a un moment pour proposer quelque chose, c'est celui-là, quoi. Et en même temps, quand on est mal soi-même, on ne peut pas accompagner correctement les autres porter des groupes, porter du collectif. Donc moi, je suis une femme, cis, afro-descendante et beaucoup d'autres choses. Mais du coup, j'ai pas grandi non plus en quartier ou en cité, donc il y a une espèce de distance aussi un peu par rapport à ça, où c'est un petit peu encore différent. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui résonne beaucoup en moi, parce que dans mon histoire, il y a vraiment ce truc de... si certains choix de ma famille, de mes ascendants, avaient été différents, ce contexte-là aurait été différent. Mais du coup, je ne me sentais pas du tout de proposer quelque chose alors que j'aurais carrément aimé. Et au final, je pense que c'était important aussi, on a beaucoup parlé avec Selma, de prendre le temps de se reposer, de prendre soin de soi, de laisser passer un peu cette réactivation traumatique-là. Pour se reconstruire et proposer des choses ensuite. Et heureusement, il y en a eu quand même des personnes comme Selma qui ont eu la capacité de proposer des choses.
Oui, alors pour ma part, c'était un événement qui était aussi assez difficile, je pense, comme toutes les personnes racisées de France et au-delà. Donc je suis une personne afro-descendante aussi, je suis une femme cis afro-descendante, originaire d'Afrique du Nord plus particulièrement, et j'ai grandi dans un quartier populaire en Île-de-France, et du coup la question des violences policières, c'est une question à laquelle j'ai été confrontée très tôt, et effectivement, comme tu le disais, Anne, ça vient réactiver pas mal de choses dans le paradigme de ce qu'on appelle les traumas systémiques et sociaux. C'est ce qu'on appelle un rappel traumatique pour les personnes concernées. Et à ce moment-là, moi, j'étais fatiguée. C'était la fin, un petit peu la fin de l'année scolaire, avec tout ce que ça entraîne. Ça a été une année qui était un peu difficile, mais j'avais encore un peu d'énergie à ce moment-là. Donc j'ai proposé des espaces. J'ai proposé un espace de soins communautaires, un cercle de parole pour en discuter. Et moi, je pensais que j'allais avoir quelques personnes intéressées par cette démarche. Mais en fait, j'ai reçu 150 demandes. Et c'est un truc, enfin, je ne m'attendais vraiment pas. Je sais qu'il y a un besoin, sinon je ne l'aurais pas proposé. Mais j'ai reçu, enfin, je ne m'attendais pas à recevoir autant de demandes. Et du coup, je ne pouvais pas gérer toute seule 150 demandes parce qu'on ne peut pas faire des sortes de paroles à 150 personnes, ça n'a pas de sens. Mais je ne pouvais pas non plus proposer 15 cercles de paroles en petits groupes parce que je n'avais pas l'énergie de faire ça. Et puis, enfin, je travaillais, j'avais mes activités professionnelles à côté. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai proposé à part. Donc, à ce moment-là, j'ai fait un appel aux professionnels de l'accompagnement qui se sentaient avoir l'énergie pour proposer des espaces de soins communautaires. Et j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont contactée. D'ailleurs, c'était vraiment cool parce qu'on s'est organisé dans l'urgence et on a pu proposer plusieurs créneaux. Pour que toutes les personnes qui m'avaient contactée puissent, si besoin, participer à ces cercles de parole. Donc, on s'organise, on propose ces espaces, et en même temps, j'ai reçu pas mal de réponses de professionnels de l'accompagnement. C'était toutes des femmes blanches. Je situe un peu la position de tout le monde. Qui m'ont proposé de un peu promouvoir leur initiative, enfin, c'est même pas qu'ils m'ont proposé, qu'ils m'ont demandé de promouvoir leur initiative de soins suspendus. Donc, en gros, le concept, c'est que des personnes blanches payent une professionnelle de l'accompagnement blanche pour que des personnes racisées puissent bénéficier de ces soins-là, sachant que les soins, c'était des massages, des cours de yoga, des choses comme ça. Alors, je répète, la proposition, donc c'est des femmes qui ne se connaissent pas entre elles a priori, hein, donc c'est vraiment des personnes qui ont réfléchi dans leur coin à cette solution-là. Donc, la solution proposée, c'est... On propose à des personnes blanches de payer des soins comme des massages ou des cours de yoga à des personnes racisées. Et donc, la personne qui fait les soins est payée par ces personnes blanches et les personnes racisées reçoivent les soins de façon gratuite.
Bon, là, on peut dire qu'il y a vraiment plusieurs choses qui ne vont pas.
Ouais. Tout à fait, il y a plusieurs choses qui vont pas. Alors du coup, c'est pas. Alors j'ai pas forcément répondu à chaque personne parce que j'avais déjà beaucoup beaucoup de choses à faire. J'ai fait un message un peu groupé pour dire que c'était pas du tout ce dont on avait besoin et on va un petit peu en parler un peu plus tard, je pense, dans l'épisode de quoi on a besoin à ce moment-là. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi le fait qu'il y ait plusieurs personnes, et puis c'était à peu près une dizaine, un peu plus d'une dizaine, donc c'est pas une personne en fait, donc c'est quand même une idée qui paraît logique quand on est une personne blanche de proposer ce genre de choses. Du coup, on va un petit peu discuter de ça, de en quoi c'est problématique, entre guillemets. Même si on leur jette pas la pierre, en fait, on sait que ça part d'un bon sentiment et que ça part d'une bonne intention, mais c'est pas ce qui compte l'intention et le sentiment, c'est pas ce qui compte à ce moment-là.
Justement, alors effectivement, il y a plusieurs points qui ne vont pas du tout. Mais je pense que on peut partir d'un premier point qui est que ces personnes qui effectivement sont dit il faut faire quelque chose et qui ont envie de faire quelque chose sont pas parties des besoins des personnes concernées et des publics auxquels elle souhaitait s'adresser, mais sont parties de ce que elle pouvait proposer. Donc c'est un mode de réflexion qui est hyper dysfonctionnel quand on veut accompagner et encore plus dans des contextes comme ça. Parce que du coup, ça fait qu'il y a un décalage entre ce qu'elle propose et le besoin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer une offre en partant uniquement de ce qu'on est capable de faire. Il faut quand même créer des offres en fonction des besoins des personnes auxquelles on s'adresse. Donc, il y a ce décalage-là qui est hyper marquant. Est-ce que quand on est une personne racisée, qu'on est en état de choc face à cette situation, on a besoin d'aller faire un massage ou d'aller... Est-ce qu'on a besoin déjà, d'aller faire une pratique individuelle alors qu'on est dans un contexte et une problématique qui est collective? Est-ce que notre besoin est le critère vraiment différenciant, c'est de ne pas payer? En fait, est-ce que le problème, c'est un problème financier à ce moment-là? Et ça veut dire aussi qu'on part du principe que personne racisée égale personne pauvre. Et est-ce que, quand on est dans un contexte de violence raciale, on a quand même un policier blanc qui tue un ado racisé? Est-ce que moi, en tant que personne racisée, ce dont j'ai besoin, c'est d'aller recevoir un soin d'une personne blanche, symboliquement sur les groupes qu'on représente toujours, en fait, dans la vie? Est-ce que c'est ça qui va me proposer un espèce de guérison?
Oui. Ouais, je pense qu'il y a la... Parce que tu as soulevé... on en a déjà parlé beaucoup de cet épisode, parce que, honnêtement, moi, je l'ai vécu comme une violence. Bon, après, voilà, j'ai mes espaces où je peux me ressourcer, où je peux co-réguler, etc. Donc, c'est OK. Mais pour moi, ça a été très violent qu'on me le demande de promouvoir, et qu'on me demande aussi si c'est OK. Parce que, du coup, j'avais plein de choses à gérer à ce moment-là. Et comme tu disais, Anne, tout à l'heure, tout le monde... on était tous et toutes en PLS, en fait, les professionnels du soin, comme les personnes qu'on accompagnait. Et en tant que professionnel du soin, c'est notre job de créer un espace safe, donc de revenir à sa sécurité intérieure. Et en fait, moi, je l'ai vécu de façon très violente, parce que du coup, on revient à cet eurocentrisme et on revient à ce truc de « moi, je sais ce dont vous avez besoin et je vais vous le proposer parce que c'est mon expertise. » Et donc, mon expertise est forcément intéressante pour vous, puisque c'est moi qui le propose en tant que personne blanche, même si ce n'est pas dit comme ça. Mais c'est dans le monde de l'accompagnement, c'est une dynamique qui revient très souvent, en fait, de partir du haut, de ce qu'on sait, de ce qui a déjà été théorisé, pour proposer des choses. Et parfois, c'est complètement décorrélé du besoin des gens qu'on accompagne. Et moi, je pense que un des points principaux, c'est le fait que proposer du self-care quand on a besoin de community care, donc proposer des soins individuels quand on a besoin de soins communautaires, c'est hyper problématique, et ça rajoute à la dynamique d'oppression, parce qu'en plus on dit « non mais on vous propose des trucs et vous n'allez pas mieux ». Donc c'est que vous avez un problème. Mais en fait, on n'a pas besoin de soins individuels à ce moment-là. Ça peut être en plus, hein, je ne dis pas que le soin individuel, ça ne sert à rien. Évidemment que c'est utile et qu'on a besoin d'être accompagné. Mais en fait, à ce moment-là, pour que l'expérience traumatique collective, elle ne se cristallise pas, on a besoin de soins communautaires, on a besoin de se retrouver entre nous, on a besoin de pleurer ensemble, on a besoin de crier notre colère ensemble, on a besoin de même rire ensemble. Mais on a plus besoin d'un espace communautaire que d'espace individuel, et encore moins d'espace individuel qui sont proposés de cette façon-là, avec ce rapport ascendant-descendant.
C'est clair, et du coup, quand on dit soins communautaires, on parle d'espace de non-mixité, parce que le simple fait de se retrouver entre soi, entre des personnes qui partagent le même vécu, c'est déjà vecteur de guérison. Ça fait déjà du bien. Et je trouve ça hyper frappant que des personnes blanches, donc extérieurs à la communauté ne s'en rendent pas compte. Là où des personnes racisées vont se questionner, j'en ai parlé avec d'autres professionnels de l'accompagnement racisés qui se sentaient pas forcément légitimes. Moi, par exemple, je suis afro-descendante, mais d'origine caribéenne. J'ai pas grandi dans un espace de cité, de quartier. Du coup, je me sens beaucoup moins légitime à intervenir sur le sujet, par exemple. Et du coup, on est plusieurs à avoir échangé là-dessus et à se sentir dans ce cas de figure. Et c'est hyper frappant de voir que, dans le même temps, il y a des personnes carrément blanches qui ne se posent pas du tout la question et qui sont dans une démarche qui reproduit la posture de l'oppresseur. Parce que au-delà de tout ce qu'on a dit, elles viennent te demander à toi, qui est une professionnelle de l'accompagnement racisé, et elles viennent pas en soutien en fait. Elles viennent avec, alors soit une forme d'exigence de puisque tu as fait ton message sur Instagram où tu as appelé les professionnels de l'accompagnement à se manifester, elles viennent avec leur truc tout plein en disant bah voilà, partage mon truc, ce qui ne va pas du tout et qui recrée encore un rapport de domination. Elles viennent aussi en te demandant si c'est OK. Mais du coup, c'est la même démarche, c'est-à-dire qu'elles viennent avec quelque chose qui elles ont réfléchi seules, et à la fois seules dans leur vision eurocentrique et dans leur vision qui est déconnectée du besoin, et aussi seules dans la démarche. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un besoin. Comme tu disais, où on a besoin que les personnes concernées puissent y aider, et on a besoin que la réflexion soit collective. Et elles viennent, elles te disent, est-ce que c'est OK? Bah, en fait, ça s'appelle du consulting. Et est-ce que c'est OK de demander à une personne concernée qui est elle-même en PLS de faire ça à ce moment-là, gratuitement? En plus, tu vois. Et du coup, je trouve ça assez lunaire. Enfin, la question qui peut vite venir, c'est ouais, mais du coup, ça veut dire que si je suis une personne blanche, je ferme ma gueule. non, en fait, tu peux. Je trouve ça assez étonnant de me dire que ces personnes-là se sont pas dit à aucun moment, je vais t'envoyer un message pour te demander de quoi tu as besoin. Voilà, c'est simple en fait.
Ouais. En fait, il y a un principe dans la psychologie de la libération qui est hyper intéressant. C'est le fait de créer des espaces de personnes concernées et pas des espaces pour les personnes concernées. Parce qu'à partir du moment où on propose des espaces pour, il y a forcément ce rapport ascendant-descendant où on va imposer notre vision des choses et imposer notre paradigme aux personnes qu'on accompagne. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette situation-là. Et c'est pour ça qu'on parle d'eurocentrisme, parce que c'est le paradigme eurocentrique qui nous oblige et qui nous pousse plutôt à réfléchir comme ça. C'est-à-dire que, bah oui, on sait ce qui est bon pour vous, donc on va vous le proposer. Alors que, en fait, on devrait partir de la base de bah, vous avez besoin de quoi, les personnes concernées, de quoi vous avez besoin, qu'est-ce que je peux proposer à partir de là. Mais ce n'est pas une démarche qui est forcément facile, surtout quand on est dans l'urgence et surtout quand on est... parce que là, on a travaillé dans l'urgence. On n'est pas forcément dans un moment de notre vie où... on va avoir une réflexion qui est la plus logique. Mais je trouve ça intéressant du coup que ce qui paraît logique dans ce moment-là, c'est de proposer des massages, par exemple, parce que c'est complètement décorrélé du besoin. Même si, oui, ça me ferait plaisir d'avoir un massage. J'aurais besoin d'aimer. Mais est-ce que c'est de ça dont on avait besoin à ce moment-là? Non. Et la deuxième chose, c'est la question de l'argent. Parce que, En fait, on a proposé ces espaces de soins communautaires gratuitement. Et d'ailleurs, on va en proposer d'autres parce que là, on s'est organisé dans l'urgence. Mais notre volonté, c'est que C'est qu'on puisse en proposer plus souvent et que, comme on vit en France et qu'on sait que ça se produit tout le temps, qu'il y a toujours besoin d'espaces de soins communautaires, qu'on puisse vraiment, s'il y a des besoins urgents, être beaucoup plus réactif et pouvoir s'organiser de façon plus rapide. Mais du coup, c'est gratuit parce qu'on est dans l'urgence. Et là, ce qu'elle proposait, c'était que des personnes blanches payent. Donc, il y a aussi ce truc de je donne de mon énergie, mais je me fais quand même de l'argent. Et c'est OK de vouloir être payé quand on est professionnel de l'accompagnement. Il n'y a aucun souci avec ça. On le répète tout le temps. Évidemment, qu'il faut que notre travail soit rémunéré. Mais là, c'était vraiment la posture de « il se passe un truc, je veux proposer quelque chose, mais il ne faut pas que ça me coûte trop non plus. » Je vais faire ce que je sais faire. Il y a des gens qui vont me le payer. Et puis moi, je vais juste travailler. Et puis, il y a vraiment ce rapport de domination de... C'est un peu la posture du sauveur blanc. Moi, je sais ce dont vous avez besoin en tant que personne blanche, et c'est quelque chose que je peux apporter, donc je vais vous l'apporter, et vous n'avez pas besoin de payer, parce qu'évidemment, vous n'avez pas d'argent, vous êtes des personnes racisées. Mais il y a des gentils blancs qui vont payer à votre place.
C'est terrible, parce que... il y a plusieurs choses qui sont terribles. Je trouve ça assez terrible de pas partir d'une posture où on va demander, parce que j'ai parlé de cette problématique rapidement en story sur Instagram, et on m'a demandé, il y a des personnes, des professionnels d'accompagnement blanches qui sont venus me demander, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? moi, j'ai donné des exemples en disant, par exemple, si vous avez de l'argent, vous pouvez proposer de rémunérer justement les personnes qui font ça gratuitement. Vous avez une bonne communauté, une bonne audience, vous pouvez relayer. Vous avez un peu de temps, vous pouvez offrir peut-être vos capacités d'organisation, de logistique, à ces personnes-là qui portent déjà des cercles, qui font déjà tout le travail thérapeutique et qui peut-être n'ont pas forcément l'énergie pour aller dans toute l'organisation. Enfin, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire. Et quand on pose la question, finalement, c'est pas sorcier. Ce que je trouve ahurissant dans ce qui s'est passé, c'est que, on en a parlé ensemble, toi et moi, c'est que il y a quand même beaucoup de ces personnes qui t'ont contacté qui sont ouvertement engagées sur, par exemple, des luttes féministes et parfois à des niveaux quand même assez avancés. Et je trouve ça vraiment ahurissant que des personnes qui sont engagées dans des luttes qu'on peut dire sœurs, en tout cas, on est dans la dynamique de lutter contre une oppression systémique, ne se rendent pas compte de ça. Parce que si on fait le parallèle, ça veut dire que qu'est-ce qu'elle devrait penser de masseur, un homme cis qui propose des massages, qui, pendant MeToo, vient proposer des massages suspendus pour les femmes. Est-ce que quand on le dit comme ça, elle ne trouverait pas ça complètement hallucinant?
Si. Et en fait, c'est un peu le problème tout le temps avec les féministes blanches. Chers amis blanches, ne faites pas ça. En fait, c'est un peu le souci parce que le féminisme blanc, c'est vraiment construit sur ce rapport de domination en fait, entre les personnes blanches et les personnes racisées. Et donc, il y a très... je trouve qu'il y a cette tendance à avoir du mal à se considérer comme oppresseur dans ce contexte-là. Et donc, on se considère comme allié et on se dit pas... peut-être que ma posture, elle va plus faire de mal que de bien, même si j'ai des bonnes intentions, parce que il y a cette posture d'oppressée dans la société, parce que femmes, qu'elles ont du, de laquelle elles ont du mal à sortir. Et donc quand on parle, pourquoi on parle d'eurocentrisme, etc. Parce qu'il y a cette capacité à se centrer sur soi d'abord et sur ce qu'on sait, ce qu'on pense être bien. Et en fait, d'un point de vue plus systémique, quand on parle du système monde, ça revient à ce qu'on appelait la mission civilisatrice à l'époque et que maintenant on appelle l'aide au développement. Ça revient à la même idée en fait. C'est-à-dire que moi, depuis ma posture de sachante et de personne qui a un savoir et une expertise que vous n'avez pas, je vais vous proposer des choses qui sont peut-être décorrélées, mais je m'en fiche que ce soit décorrélé, puisque moi, je peux proposer ça. Donc, c'est un petit peu ça, en fait, qui se rejoue ici.
Et du coup, pour ne pas vous laisser démunis, chers amis blanches, on est un peu dans des white people, là. en fait, on peut vous donner un peu des petites recettes, des petits tips. Je pense qu'on en a déjà un petit peu parlé, mais... je pense que c'est très important. Là, on l'a fait assez rapidement dans le podcast. C'est très important de faire le travail de se situer parce que ça ne coule pas de source et parce qu'il n'y a aucune forme identitaire qui est neutre. Par exemple, comme la blanchité est considérée implicitement comme la neutralité, souvent, la problématique chez les femmes blanches, c'est effectivement de vraiment sentir la question d'être une femme et de ce que ça implique dans la société, mais de complètement éluder le fait d'être blanche parce que justement, il y a cette identité de femme. Et je pense qu'il faut vraiment faire le travail de se situer extrêmement précisément et de faire le travail de checker ses privilèges un par un. C'est pas parce qu'on est opprimé à un endroit qu'on peut pas être en posture de pouvoir et de domination à un autre. Et c'est important de le faire parce que ça permet de voir aussi où sont nos espaces de lutte où on est légitime, où sont les espaces où j'ai des privilèges. Et c'est pas pour dire c'est pas bien. franchement, moi, si je pouvais avoir des privilèges partout, c'est ok. en fait, non, parce qu'en vrai, je veux démanteler le système. Mais si vous avez des privilèges dans ce système qui fait que forcément, soit tu as des privilèges, soit tu n'en as pas, utilisez-les. En fait, à bon escient. Vous pouvez faire plein de choses, mais en tout cas, partez de ce premier constat. Ça va vous permettre en fait de voir ce qu'il est ok ou pas de faire. Et ensuite, mettez-vous en posture de soutien et partez de la situation et des besoins des gens, parce que peut-être que on n'a pas besoin de vous intervenir du tout aussi parfois.
Complètement.
Et si vous faites ça, ça va tout changer. Et le petit, je pense que le truc facile justement, c'est de faire l'exercice de ce que je vous ai proposé, de dire s'il y a un mec blanc, cis hétéro vient proposer ce que moi je veux proposer dans le contexte de ma lutte, transposez les choses dans les luttes qui vous concernent pour sentir si ça colle ou pas, parce que tout de suite vous allez voir le décalage là où visiblement, vous n'arrivez pas trop à le sentir dans d'autres contextes.
Oui, je suis d'accord. Et j'ajouterais que, au-delà de checker ses privilèges, ce qui est important, c'est d'aller questionner sa culpabilité blanche et sa honte blanche. Parce que il y a un concept qui s'appelle le trauma des auteurs. Donc, en fait, on peut théoriser le pourquoi vous agissez comme ça. Mais voilà, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Mais en fait, quand on propose quelque chose parce qu'on veut agir, parce que sinon on se sent coupable si on n'agit pas, on se centre sur soi, on se reçoit encore une fois, et on ne se centre pas sur les personnes qui ont besoin de nous. Et en fait, c'est un manque de compassion et un manque d'empathie. Et du coup, C'est un mécanisme qui est hyper violent parce que en tant que personne concernée, on sent qu'il n'y a pas de compassion et d'empathie. Et en fait, si on se dit, ce qui est le plus important là, c'est que les personnes concernées puissent avoir des espaces pour elles à ce moment-là. Tout de suite, ça change la donne parce qu'on se centre pas sur nous, on se centre sur les autres. Alors que si on propose des choses depuis sa culpabilité, on se dit ah là là, faut absolument que je propose quelque chose parce que sinon on va croire que je suis pas alignée à la lutte. Bon, je sais que c'est pas forcément ce qui se passe. Je caricature un petit peu. Mais en fait, on propose quelque chose qui est complètement déconnecté de la compassion qu'on pourrait avoir pour les autres. Et ça, c'est un rapport de domination et ça, c'est une pensée raciste. En fait, d'être complètement de ne pas réussir à être en compassion, en empathie avec l'autre, parce qu'on fait pas partie, parce que voilà, parce que on est blanc et les autres sont racisés. Peut-être qu'on pourrait faire un épisode sur le complexe du sauveur blanc et de pourquoi c'est raciste. Mais du coup, c'est un biais raciste en fait de réfléchir comme ça et de proposer ça comme ça. Donc, c'est OK, ça s'est passé. Juste faites attention la prochaine fois. En fait, il y a plein d'espaces qui sont proposés par nous, mais même par d'autres pros de l'accompagnement pour justement travailler ces choses-là. Donc, on vous invite vraiment à prendre vos responsabilités. Donc, moi, je dis toujours, il faut mesurer la responsabilité qui vient avec son privilège. Et privilège égale responsabilité. Donc, prendre sa responsabilité et la responsabilité de ce privilège de justement s'éduquer, mais pas uniquement s'éduquer, puisque intellectuellement, on peut comprendre plein de choses, mais d'aller travailler sur ces émotions comme la culpabilité, la honte, mais aussi ces réponses traumatiques parfois. Voilà, travailler sur tout ça pour pouvoir vraiment être en compassion et en empathie avec les personnes que vous souhaitez aider à ce moment-là.
Voilà, c'est ça, quand on parle de décoloniser ces pratiques d'accompagnement, c'est ça dont on parle en fait. C'est pas un gros mot, c'est pas. Ce sont des termes qui peuvent vite revêtir des atours très militants ou très spécifiques. Sur la question raciale, alors que je pense qu'on en parlera dans d'autres épisodes, mais ça recouvre tout. L'idée, c'est vraiment d'aller faire un travail qui est à la fois personnel, professionnel, et qui est un travail d'action. Avant de se mettre en action, il faut maîtriser des concepts. Il faut être au clair avec ses émotions et ses ressentis. Mais après, la posture qui est demandée, c'est d'une action juste et on peut pas être dans un mode de fonctionnement comme ça où il faut agir, donc on fait un truc quoi. C'est pas possible en fait. On voit qu'on fait plus de mal que de bien quand on fait ça. Donc vraiment la proposition c'est ça, c'est d'inspirer et de travailler parce que en réalité en plus ce qui est dommage c'est que il y a eu cette réaction là qui a été cristallisée. Parce que le meurtre de Naël a cristallisé vraiment beaucoup de choses et ça a été visible pour les personnes blanches, alors qu'en fait ça se passe tout le temps et que du coup en fait on n'a pas besoin de réactions d'urgence comme ça qui soient pas alignées. On a besoin, comme tu disais tout à l'heure Selma, d'une réflexion commune, collective, et qui s'inscrivent en fait dans la durée parce que les choses se reproduisent en permanence. Et je pense que ça serait intéressant que les personnes qui souhaitent se positionner comme des alliés aient cette réflexion aussi tout le temps et que ça soit pas des réactions comme ça très épidermiques à chaque fois qu'il y a un peu un scandale entre guillemets, quoi.
Oui, carrément. Et du coup, je pense qu'on peut finir sur cette idée que on est tous et toutes d'accord sur la justice sociale, etc. Mais on ne peut pas prétendre d'agir pour la justice sociale pour des gens envers qui on ne ressent pas d'empathie ou pour des gens avec qui on n'arrive pas à ressentir cette empathie. Donc, juste checker ça aussi, quoi. Pourquoi, qu'est-ce qui fait que l'empathie est difficile? C'est quoi ce biais de ouf qui fait que l'empathie est difficile à ce moment-là? Je sais que c'est difficile à recevoir et à entendre quand on est une personne blanche, mais je pense que c'est important que vous l'entendiez.
Carrément, on a tous et toutes des biais cognitifs. Et je pense que l'important, c'est de les travailler, et vous pouvez les travailler finalement hyper facilement, juste en suivant des personnes concernées, en écoutant ce que les personnes concernées ont à dire. En fait, élargissez vos groupes d'appartenance, parce qu'en fait, l'empathie, elle naît aussi de la sensation de connexion à l'autre, d'appartenance au même groupe que l'autre. Et on a beau être en mode très love and light, colorblind, on est tous des humains. En fait, non, notre cerveau, il catégorise beaucoup. Et si vous voulez réfléchir de manière plus large et avoir de l'empathie et avoir des mécanismes et des réflexes beaucoup plus justes, travailler sur vos biais de cette manière-là, en fait, et ça peut se faire assez facilement, finalement, assez progressivement. Ça sert à rien de s'embarquer aussi des fois dans du très théorique. Il y a des personnes qui vont aller acheter des bouquins hyper théoriques et tout ça, c'est hyper intéressant. Mais je pense que déjà, si vous n'avez pas ce socle-là qui est hyper émotionnel, ça va être assez stérile.
Merci Anne, on va se quitter là-dessus. C'était un plaisir de faire ce premier épisode crossover avec toi.
Mais oui, c'était vraiment super, ça fait un moment qu'on en parle. C'est avec beaucoup de joie qu'on vous propose ça. Et j'espère que vous serez au rendez-vous pour les prochains épisodes.
Oui, à bientôt.
À bientôt. Merci d'avoir passé ce moment communautaire avec nous. On se retrouve très vite pour un nouveau crossover de Mélie Mélie et Care Constellaire.
Si tu es pro de l'accompagnement et que tu te lèves le matin avec l'envie de déboulonner le système capitaliste / colonial, tu peux rejoindre la pilule rouge, notre espace de formation pour décoloniser sa pratique.
Et pour te mettre le pied à l'étrier, nous proposons une formation de base. 2 heures pour changer de paradigme en apprivoisant les concepts clés de la décolonialité. Toutes les informations en description de l'épisode et sur notre compte Instagram @la.pilulerouge. À bientôt!